Cela commence par un jeu et finit en dictature. La vague est une histoire basée sur des faits réels. C'est l'histoire d'un professeur d'histoire, Ben Ross. Pour faire comprendre le nazisme à ses élèves, il crée un jeu qui va très mal se passer et tourner en une vraie dictature.
Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit livre. Un petit livre que j'ai lu sans grande conviction, enfin en tout cas que j'ai appréhendé et dont j'ai commencé la lecture sans grande... sans grandes attentes en fait. Ce livre s'appelle La Vague, comme tu l'as vu dans le titre. Ce livre en fait est intéressant tout simplement parce que c'est un petit roman et ce petit roman en fait est inspiré d'une histoire vraie. Et en fait, cette histoire vraie, c'est tout simplement un professeur en Californie, à Palo Alto, qui a voulu faire une expérience sociale avec ses élèves à la suite d'une question que lui avait posée l'un de ses élèves, c'est-à-dire comment en fait les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu laisser faire ces camps de concentration, ces camps d'extermination. Comment est-ce que les gens ont pu laisser faire les nazis alors qu'on le sait, les nazis étaient plutôt minoritaires dans la société. Tout le monde a suivi, peu de personnes ont réagi. Et en fait, quand l'élève a demandé ça à son professeur d'histoire, quand il lui a demandé comment était-ce possible en fait que personne ne réagisse et que tout le monde suive, eh bien le professeur n'avait non seulement pas la réponse à lui apporter tout de suite, mais en cherchant dans les livres d'histoire, il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas véritablement de réponse appropriée. Et donc pour répondre à son élève, et donc c'est ce que nous raconte le roman La Vague, hein, donc inspiré de l'histoire vraie, mais voilà, ça reste romancé. Et en fait, dans La Vague, eh bien, on va voir un professeur qui va tenter par l'expérience de répondre à la question qui a été posée par son élève, à savoir comment est-il possible que des gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, aient suivi les nazis, aient eu peur des nazis, hein, ceux qui n'étaient pas d'accord, eh bien, évitaient de le dire trop fort. Comment, en fait, le parti nazi est devenu aussi puissant, puisque, voilà, il a toujours eu dans son corps idéologique, une propension au fascisme. Donc on aurait pu se dire que eh bien, les gens n'allaient pas le soutenir et que du coup ils allaient le bloquer assez rapidement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc le professeur dit, bon, voilà, il étudie le nazisme, etc. Et il se dit, je vais faire une expérience sociale avec mes élèves. Et à défaut de pouvoir leur expliquer ce qui s'est passé les années 40, enfin en tout cas pendant la seconde guerre de 39-45, en Allemagne nazie, eh bien, comme je ne peux pas leur expliquer, je vais leur montrer en fait. On va vivre ça ensemble.
Était-il donc vrai que la nature des hommes les poussait à chercher un meneur? Quelqu'un pour prendre les décisions à leur place?
Alors, il commence par étudier le nazisme, hein, je l'ai dit. Donc, il étudie tout le corpus idéologique du nazisme. Et il se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'écrits en fait qui accordent une importance majeure à la discipline. Et donc, il va commencer comme ça avec ses élèves. Il va commencer par leur dire... Bon, eh bien, on va acquérir une discipline de groupe dans cette salle. Et puis, on va aussi se nommer, on va se donner un nom. Et ce nom, ça va être la vague.
La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action.
Et en fait, au départ, ça commence dans une classe du collège. Donc, la fameuse classe qui a cours avec ce fameux prof d'histoire. Et donc du coup, ils vont commencer par mettre en place des règles. Alors ils vont commencer par une première expérience. Il va demander à tous les élèves de sortir. Et puis il va leur demander en fait d'aller le plus rapidement possible s'asseoir sur leur chaise. Alors sortir de la classe, j'ai pas précisé. Donc il va les faire sortir de la classe. Et puis il va leur demander d'aller s'asseoir sur leur chaise le plus rapidement possible. Alors au départ, ils sortent. Et puis au final, ils rentrent comme ça, un petit peu comme si c'était le jeu de la chaise musicale. Ils se poussent, etc. Et ils arrivent en fait à rentrer dans la classe et à tous être assis en un peu moins d'une minute. Et puis le professeur leur dit, écoutez, c'est pas la chaise musicale, va falloir être un petit peu plus sérieux et surtout un petit peu plus discipliné. Et puis vous allez me faire ça correctement maintenant, vous allez vous mettre en rang et puis vous allez rentrer. Et puis après avoir mis cet élément de discipline, eh bien ils se rendent compte que, eh bien cette fois quand ils demandent aux élèves de rentrer, ils vont beaucoup plus vite. Ils mettent un peu moins de 30 secondes. Et puis là, tout seul, les élèves, donc ils recommencent une nouvelle fois l'expérience, puis tout seul, les élèves se disent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en premier, en fait, ceux qui sont au fond de la classe, on va mettre en dernier dans la file, afin de rentrer en classe, on va mettre ceux qui sont juste près de la porte, et puis on va, comme ça, rentrer dans la classe de manière organisée, et puis on va voir ce que ça donne. Et à la grande stupéfaction du professeur, ils mettent à peine 15 secondes pour tous s'asseoir et en plus ceci sans bruit. Et donc il commence par cette découverte-là, c'est-à-dire la découverte de la puissance, de l'efficacité, de l'efficience de la discipline sur un groupe pour pouvoir faire telle ou telle chose.
Voici le genre de comportements qui ont amené ces jeunes à se radicaliser et à devenir des fascistes. N'ayez jamais peur d'agir pour défendre ce en quoi vous croyez. En tant que membre de la vague, vous devez agir ensemble comme une machine bien huilée. Par le travail acharné et l'allégeance, vous apprendrez plus vite et vous irez plus loin. Ce n'est qu'en vous soutenant les uns les autres, en œuvrant ensemble, en obéissant aux règles, que vous pourrez assurer le succès de la vague.
Et donc, fort de cette découverte, ils vont continuer l'expérience sociale. Et donc, en fait, ils vont ensemble définir quelques slogans. Un des slogans va être, l'autorité, c'est la force. Ils vont aussi émettre des slogans envers le groupe. La communauté, c'est la force. Donc, en l'occurrence, la communauté, ici, c'est la vague. Le professeur va également être le leader. Il va jouer le rôle de leader. Et il va prendre son rôle très à cœur jusqu'à peut-être se laisser emporter par ce rôle-là. Et c'est intéressant parce que, du coup, dans le livre, on va voir que, le dictateur, le leader, celui qui est au départ le leader, mais qui dans un pays peut être le dictateur, peut aussi se laisser emporter par un espèce de corps, en fait, une espèce d'esprit de foule, comme pourrait nous le décrire Gustave Le Bon dans La psychologie des foules. Et en fait, le dictateur, le leader d'un mouvement fasciste, là en l'occurrence de l'expérience sociale, donc le professeur, se laisse emporter, en fait, parce que flatté par l'ego, flatté par sa place, et flatté par la position de pouvoir qu'il a sur les autres. Et donc, la vague va continuer sur ce chemin-là. Donc le professeur va dire à ses élèves, écoutez, maintenant, quand vous allez me répondre, vous allez dire « Oui, monsieur !» et vous vous mettrez à côté de votre bureau. Et puis, vous allez faire ça le plus rapidement possible. Et puis, ça devient un jeu, en fait. C'était une classe qui était... la classe qu'il avait, c'était une classe qui était très dissipée, très bruyante, très... Et là, la classe, tout d'un coup, ne faisait plus de bruit, était très concentrée sur le cours. Il y avait vraiment un esprit de corps, une égalité entre tous les membres. Ça, c'est une notion importante aussi qui est montrée dans le livre. C'est que quand vous faites partie d'un mouvement comme ça, vous avez l'impression d'être tous des éléments en fait de la communauté. Et donc vous avez l'impression d'être tous égaux. Et donc du coup, ça annule ce problème de jalousie qu'il y a entre les gens quand il y a une compétition. C'est-à-dire que maintenant vous êtes tous égaux les uns aux autres au sein de la communauté et vous avez des fonctions, en tout cas des fonctions différentes et vous avez en tout cas tous comme seul et unique but de protéger, de faire perdurer et de faire progresser au niveau du nombre d'adhérents parce qu'ils vont carrément faire du prosélytisme et ils vont aussi faire progresser au niveau de sa puissance la vague, leur structure communautaire. Comme je le disais, le prof va être un petit peu happé par sa fonction de leader, la fonction qu'il s'est donnée au départ et que les élèves acceptent au départ comme un jeu. Et puis au final, le jeu se transforme en quelque chose de beaucoup plus sérieux, parce que les élèves de la classe recrutent des membres pour la vague dans d'autres classes. Il y a tellement de discipline dans la classe que le professeur arrive à faire cours beaucoup plus vite que dans les autres classes, que les autres professeurs avec leurs autres classes. Il obtient de meilleurs résultats, de meilleures notes. Et donc du coup, il y a des élèves qui commencent à partir des classes où ils étaient avec d'autres professeurs pour assister au cours avec ce professeur-là qui fait cette expérience sociale et qui devient en l'occurrence le leader de la vague. Et donc du coup, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont adhérer à la vague au sein de l'établissement, jusqu'à l'équipe de sport, où vous avez des personnes qui sont tout le temps en train de se chamailler en fait au sein de l'équipe de sport et du coup, ils ont une productivité, ils sont mauvais en fait, ils ont une mauvaise productivité, ils n'arrivent pas à avoir des entraînements qui vraiment les fassent progresser. Et donc du coup, ils adhèrent tous à la vague d'une manière plus ou moins forcée. Certains y adhèrent parce qu'ils sont convaincus, d'autres y adhèrent parce qu'il y a un prosélytisme actif de la part des membres qui leur disent qu'il faut adhérer à la vague. Et puis voilà. Comme ça, une bonne partie du lycée, en fait, va adhérer à cette fameuse vague. Et puis, tout le monde va avoir l'impression de faire corps avec cet esprit de la vague. Et puis, tout le monde a les mêmes codes. Du coup, on a l'impression de faire tous partie de la même communauté. Je l'ai dit, le livre insiste beaucoup sur l'égalité entre les membres. Mais commencent à apparaître les premiers problèmes parce qu'on a des élèves qui, quand même, n'adhèrent pas totalement à la vague et qui se posent des questions. Et en fait, on va leur faire payer très cher le fait de se poser des questions. Parce qu'on va le voir, quand il y a comme ça un mouvement communautaire, eh bien, il est très mal vu de questionner en fait cette vague, cette communauté, surtout quand elle fonctionne bien et qu'elle est basée sur une autorité serrée et forte. Et donc du coup, eh bien certains vont dire « Non, mais moi, je veux pas adhérer à la vague. » Et on va leur dire « Écoute, il va vraiment falloir que tu adhères à la vague parce que sinon, tu auras plus d'amis dans un premier temps. » Et puis ensuite, on va lui dire « Écoute, il faut vraiment que tu adhères à la vague parce que sinon, il va t'arriver des bricoles. » Donc voilà, ça commence à partir dans ces ambiances-là. Le professeur ne s'en rend pas tout à fait compte, mais quand même, il y a son épouse qui lui dit « Dis donc, parce qu'elle est prof avec lui dans le même lycée. » Elle lui dit « Voilà, il y a des élèves à moi qui partent de ma classe pour aller dans ta classe. » Elle lui dit également que « Voilà, il y a des gamins qui ont quand même des comportements bizarres. Il y a un élève qui s'est fait frapper parce qu'il a refusé d'adhérer à la vague. » On a également un premier juif, d'ailleurs ce sera le seul, hein, mais... On a un juif qui va se faire aussi violenter parce que, eh bien, il ne fait pas partie de la vague et puis parce qu'il est différent, etc. Donc voilà. Et en fait, on a vraiment un mouvement. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que vraiment, le roman, en fait, nous rend compte d'un mouvement progressif qui fait de jeunes individus, somme toute, sains d'esprit, qui vont en fait obéir à une autorité, à une hiérarchie imposé par un leader, mais qu'ils s'imposent aussi à eux-mêmes de par en fait leur appartenance à un groupe, et ils tiennent tellement à cette appartenance à ce groupe parce que, eh bien, ça les rend importants. On voit par exemple qu'il y a un élève qui se faisait tout le temps embêter par ceux de sa classe, qu'il le traitait, voilà, de mauvais parce qu'il avait toujours des mauvaises notes, etc., qui maintenant est respecté par tous les autres parce qu'il fait partie de la vague. Eh bien, vous comprenez bien qu'une personne comme ça a été flattée dans son ego et ne voudrait pas retourner à la situation antérieure où on se moquait de lui. Aujourd'hui, il fait partie de la vague, il est quelqu'un de respectable au sein de la vague, et donc du coup, il va tout faire pour que la vague perdure, y compris être violent, y compris être virulent envers les autres, y compris se mentir à lui-même, y compris tous s'interdire de penser par eux-mêmes, puisque... Eh bien, ils disent aussi quelque chose de très important dans leur communauté, c'est que la communauté est la force. Et donc, du coup, la communauté passe avant tout. Si la communauté décide quelque chose, votre esprit individuel et votre capacité d'autocritique et votre capacité de critique, votre esprit critique et votre capacité à penser individuellement par vous-même n'a plus lieu d'être. Vous ne réfléchissez qu'à l'aune de la vague, qu'à l'aune de votre communauté. Et je trouve que c'est très bien retranscrit parce qu'on voit bien comment petit à petit, comment très progressivement, eh bien, tous les élèves, le professeur également, se laissent happer par des rôles, se laissent happer dans des rôles qui ne sont pas les leurs au départ, et ils créent véritablement un vrai mouvement fasciste, un petit mouvement fasciste au sein de leur établissement.
Vous vous croyez si spéciaux, meilleurs que tous ceux qui ne sont pas dans cette salle. Vous avez échangé votre liberté contre une pseudo-égalité, mais cette égalité, vous l'avez transformée en supériorité sur les non-membres.
Et donc du coup, on arrive à la dernière partie du roman, à cette partie où en fait, eh bien, il va y avoir le dénouement. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, il y a eu des dérives par rapport à la vague, il y a eu beaucoup d'adhérents qui ont été violents, que ce soit physiquement ou verbalement. Il y a aussi des gens qui avaient des comportements extrêmement voilà, policés par les autres membres du groupe, des comportements normatifs, hein, qu'on était obligé de respecter, comme par exemple pour aller dans le stade de foot de l'établissement, eh bien il fallait faire le salut de la vague, sinon on pouvait pas rentrer. Et ça rigolait pas, c'est-à-dire que c'était pas simplement tu fais le salut vite fait, non, il faut le faire, tout le monde nous regarde, parce que sinon, eh bien, il va y avoir une embrouille et peut-être il va y avoir de la violence. Donc voilà, il y avait vraiment une véritable dérive sectaire, une véritable dérive totalitaire au final. Et donc, on a une journaliste de l'établissement, qui est une élève et qui tient le journal de l'établissement, qui est toujours restée un petit peu en retrait en fait par rapport à la vague, même si elle y a adhéré de son plein gré au début comme une expérience sociale, hein, puisqu'au départ c'était ça. Elle est toujours restée critique, notamment parce qu'elle a vu son petit ami se transformer de quelqu'un d'aimant à quelqu'un d'extrêmement virulent. Il a même été violent une fois avec elle, parce qu'elle a décidé de critiquer la vague, parce qu'elle essayait tout simplement de prendre un peu de recul par rapport à la vague, parce qu'elle contestait certaines décisions de la vague. Et donc du coup, son copain avait été violent avec elle, même s'il l'avait regretté assez rapidement, il a été violent avec elle. Et donc, du coup, eh bien, elle va décider, en fait, de faire des articles. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des parents d'élèves qui se plaignent de plus en plus au directeur, et le directeur demande des comptes au professeur, et lui dit, écoute, voilà, tu fais une expérience sociale, je valide pas forcément tes méthodes, jusqu'à maintenant, ça avait apporté des points positifs par rapport à la discipline, parce que les élèves étaient beaucoup plus disciplinés, et que, eh bien, ça s'en ressentait, eh bien, sur leur comportement déjà, et puis aussi sur leurs notes et sur leur avancement dans le programme scolaire. Mais là, vraiment, ça va trop loin, il y a vraiment trop de dérives. Il faut faire quelque chose. Et donc, du coup, le professeur, voilà, a du mal parce qu'il se dit, si j'arrête tout, en fait, si j'arrête l'expérience sociale comme ça d'un coup, eh bien, j'aurais emmené mes élèves dans quelque chose de désagréable pour eux et ils auront rien appris, en fait. Et je risque, en fait, de perdre tout le bénéfice de l'expérience sociale. Et rappelons-le, cette expérience sociale a duré, voilà, seulement quelques semaines. C'est pas quelque chose qui a duré très longtemps. Donc, comme quoi, on peut se faire endoctriner d'une manière extrêmement rapide, en fait, si on adhère tout de suite aux préceptes qu'on nous demande d'enfiler, tout simplement. Et donc, le professeur se dit, bon, il faut impérativement que j'arrête ça. Sa femme, quand il rentre chez lui le soir, lui dit aussi, voilà, il faut vraiment que t'arrêtes, t'as été beaucoup trop loin. Certes, c'était une expérience sociale qui était intéressante, mais là, ça va beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de dérives, faut absolument faire quelque chose. Et donc, du coup, bah, le professeur réfléchit, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter tout ça? Parce que lui-même s'est fait happer dans son rôle de leader, s'est fait happer dans son rôle de commandeur, parce que, bah, il y avait même des élèves qui le plaçaient sur un piédestal et qui voulaient même devenir son garde du corps. Il y a un élève qui lui a demandé d'être son garde du corps, de le protéger, en fait, parce que c'était quelqu'un de tellement important qu'il fallait le protéger. Donc, vous voyez, même le leader, le dictateur d'un mouvement se fait lui-même happer par le propre mouvement. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, on en vient à cette fameuse entité qui est une entité différente de tous les individus, c'est l'entité qu'on appelle la foule, que Gustave Le Bon, dans Psychologie des foules, nomme la foule, justement.
Si l'histoire est condamnée à se répéter, alors vous aussi, vous voudrez tous nier ce qui est arrivé dans la vague. En revanche, si notre expérience est réussie, et vous admettrez que c'est bien le cas, vous aurez appris que nous sommes tous responsables de nos propres actes et que nous devons toujours réfléchir sur ce que nous faisons plutôt que de suivre un chef aveuglément. Et pour le restant de vos jours, jamais, au grand jamais, vous ne permettrez à un groupe de vous déposséder de vos libertés individuelles.
Et donc, du coup, je le disais, eh bien, le professeur a une idée et il demande en fait à tous ceux qui ont adhéré à la vague, eh bien, de venir dans un gymnase où il va leur parler. Il prétexte en fait un déploiement national de la vague, hein, pour que tout le monde soit là, que tout le monde vienne. Et donc du coup, il dit que bah, voilà, il va expliquer comment la vague va se déployer au niveau national. Donc tous les élèves sont contents, excités. Ils se disent voilà, la vague maintenant, tout le monde va en profiter au niveau national. C'est vraiment quelque chose de super. Et puis au final, le professeur voilà va commencer comme ça en s'excusant et en disant que la vague était une expérience sociale. Et qu'en fait, il fallait que chacun, chaque individu, chaque élève se rende compte des dérives de la vague. Et que, eh bien, ces fameuses dérives, tout le monde les avait vues, mais ils ont préféré être dans le déni, ils ont préféré fermer les yeux, préférant se concentrer sur les bénéfices que leur apportait à eux la vague. Il leur a montré que, eh bien, ils avaient annihilé leur capacité à réfléchir, à critiquer, à réfléchir par eux-mêmes. Et donc du coup, au final, il leur explique que ce qu'ils ont vécu là tous ensemble, et lui-même, il s'inclut dedans parce qu'il s'est laissé lui-même happer par la vague. Eh bien, il leur explique que ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est exactement ce qu'il s'est passé pendant la guerre de 39-45 avec les nazis. Et cela explique, en fait, d'après le professeur, pourquoi le peuple allemand n'a pas massivement réagi contre les nazis et pourquoi on a laissé perpétrer des horreurs pendant la guerre de 39-45 en Allemagne. Et aussi, même si c'est dans une moindre mesure en France, eh bien, sans jamais rien dire et sans trouver beaucoup de résistance, en fait. Il n'y a pas eu énormément de résistance. Et c'est tout simplement parce que les gens avaient l'impression de faire partie d'une communauté. Et parce qu'ils n'avaient plus la capacité, quand il y a une autorité très forte, vous n'avez plus la capacité à réfléchir. Vous vous concentrez sur le fait d'obéir rapidement, avec efficacité, avec efficience. C'est comme un jeu pour vous, vous voulez obéir au chef, au leader, avec zèle, de mieux en mieux, le plus possible, le plus rapidement, avec le plus de performance. Et du coup, vous en oubliez la réflexion, vous en oubliez l'esprit critique. Vous êtes tellement annihilé. Vous êtes tellement, je veux dire, fondu dans votre communauté. Vous êtes tellement fusionné, en fusion avec votre communauté, que vous oubliez tout ce qu'il y a autour et vous oubliez toutes les dérives de votre communauté qui, pour vous, est plus importante que absolument tout. Et donc du coup, eh bien, les élèves sont vraiment, ils sont pour certains complètement choqués, d'autres mélancoliques, d'autres font des dépressions, parce qu'il est en train de leur dire qu'en fait, ils avaient l'impression d'être supérieurs aux autres dans cette vague, parce qu'ils réussissaient tout, ils avaient des meilleurs résultats scolaires, ils se protégeaient les uns les autres, ils avaient l'impression d'être des frères, ils étaient tous égaux, ça leur donnait une force, une puissance supplémentaire. Et en fin de compte, eh bien, ce qu'ils avaient vécu, c'est tout simplement l'expérience des nazis. Ils s'étaient tout simplement comportés comme des fascistes, même si évidemment le professeur les a stoppés avant que ça aille trop loin. Et du coup, eh bien, tous sont vraiment, vraiment choqués en fait par cette annonce. Et voilà, le roman se termine à peu près comme ça. Je ne vais pas vous donner complètement la fin, parce que le but, c'est que vous alliez le lire, hein, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, ce livre est un petit livre. Il n'est pas très long. Et c'est un livre en fait qui va vous montrer eh bien comment, tout simplement, n'importe quel groupe humain, si nous n'y prenons pas garde, et si nous nous contentons d'obéir, et si nous ne gardons pas un esprit critique sur tout ce qui tente de s'imposer à nous, eh bien comment on peut vite dériver en fait dans un mouvement sectaire, fasciste, voire criminel. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi, vous l'avez compris, je vous conseille ce livre. Il faut impérativement le lire, vous verrez. Ce sera un livre qui va vous apporter quelque chose d'intéressant pour la réflexion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.